L'atelier des médias, Ziad Malouf.
En septembre dernier, un manifeste a été rendu public par des personnalités françaises, dont plusieurs proches de Jean-Luc Mélenchon. Elles et ils appelaient à la création d'un nouveau média citoyen.
Quand l'information et la culture sont trop souvent traitées comme des marchandises, quel rôle les citoyens peuvent-ils encore jouer pour faire vivre le pluralisme et le débat ? Cette question appelle une réponse qui ne saurait attendre. C'est pourquoi nous appelons à soutenir la création d'un nouveau média fondamentalement alternatif par sa gouvernance, son modèle économique et son fonctionnement. Généraliste, diffusé gratuitement sur Internet.
Ce média citoyen, qui doit voir le jour en janvier prochain sous le nom de Le Média, s'engage, je cite, à être coopératif, indépendant, collaboratif, culturel, francophone, humaniste, antiraciste, féministe, écologiste et progressiste. Quand j'ai découvert ce projet, ce manifeste, j'ai senti un malaise. Je n'ai aucun doute sur les bonnes intentions de ses porteurs, mais petit 1, il n'est jamais bon pour un objet journalistique de naître dans le sillage d'un parti politique. Petit 2, et c'est là que je suis le plus gêné, il existe déjà de nombreux médias qui répondent aux exigences du manifeste précité. Des médias dont les porteurs de ce projet semblent ignorer l'existence des sites, des journaux, des télés qui se battent modestement et discrètement depuis des mois, souvent des années, pour faire vivre une presse de qualité et indépendante. Pierre Lebovici est cofondateur de L'Imprévu.
Que les politiques aujourd'hui cherchent de nouveaux canaux de communication pour diffuser leurs messages, leur idéologie, à limite, quoi de plus normal. Ça, je peux pas aller contre ça. Mais par contre, qu'ils osent, pour certains, faire ça sous les couleurs d'un média qui se revendiquerait indépendant, là, ça me pose un vrai problème. Et je pense que ça pose un problème véritablement démocratique, puisque ces médias qui se lancent, là, donc il y a La République En Marche qui veut lancer sa web télé, il y a Le Média qui est parrainé, on ne sait pas très bien, par la France Insoumise. Ces médias, en fait, ils se reposent aujourd'hui sur l'accès à l'information sur Internet, qui a pris beaucoup de place aujourd'hui pour les Français, et sur le fait que je pense qu'on a de plus en plus de mal, quand on est un lecteur, aujourd'hui un internaute, à savoir d'où l'information elle vient. Et donc, en faisant ça, en lançant un média quand on est politique, on joue sur ce brouillage des lignes et sur la capacité de résonance incroyable que peuvent avoir une vidéo sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook. Donc, que les politiques veuillent concurrencer les médias, ok, mais qu'ils le fassent au nom d'un média, ça me pose un vrai souci, parce que qui va vérifier la parole politique sur ces médias-là ? Est-ce que sur le média de la France Insoumise, on va avoir des articles de fact-checking, c'est-à-dire de vérification des propos de Jean-Luc Mélenchon, par exemple ? Bah, j'en doute sérieusement. J'aimerais me tromper, en fait. Si c'est le cas, tant mieux. Mais je doute vraiment de l'indépendance éditoriale à l'arrivée des journalistes qui travailleront là-bas. Non pas parce que y aura un comité du parti qui validera chacun des sujets qui sera diffusé, mais ne serait-ce que par la simple question de l'autocensure. Et il y a autre chose aussi qui m'embête un peu plus, là, par rapport à L'Imprévu, c'est que le média de la France Insoumise s'est lancé comme étant le premier média indépendant à l'heure du web. Des médias indépendants, il y en a des dizaines qui existent, et il y en a qui naissent tous les mois. Et en fait, tout ce bouillonnement, bah, je trouve que il est un peu tué dans l'œuf quand on signe un manifeste, en l'occurrence là pour le média de la France Insoumise, et qu'on dit qu'aujourd'hui les journalistes ne sont pas indépendants, qu'il n'existe pas d'alternative.
Vous écoutez l'atelier des médias, vous êtes sur RFI. Les médias citoyens existent déjà. C'est notre réponse à la kyrielle de projets qui se lancent en ce moment et qui pourraient, pour certains, confondre information et communication. Nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir avec nous aujourd'hui des médias jeunes, extrêmement différents, mais ayant fait le pari de l'indépendance et de la qualité. L'Imprévu, 8e étage, Zéphyr, et dans un autre registre, le Suisse 7.info. Strange overtones, God bless the overgrown child that could hold his own, throwing stones at the sky full of drones. He clipped the wing that fell to earth and hit close to home, and found insects nesting in his mobile phone. It's wishful thinking that a song could heal the sick rose. I sit and pull thistles out my thick
skull. Live slow, keep it simple. Sweep the father leaves out the temple when it's 10 below. Freezing in the cold wind blows. Some nights we overindulge. Kick back, shoot the shallow shit. Chew the pig fat, act on impulse. Met my love after Elohim, so my ribs closed. With devils selling dreams at the disco. Took her hand and stumbled toward the exit. Felt the pressure build. Precious virtuosic flesh clear, but not as stressed to kill. I'll sit alone and watch the rain falling from your eyes when they crack the seventh seal below the solemn summer sky. Birds in the cage, rats in the belly, snakes in the grass, bats in the belfry. About the ocean that profess love to Ishmael. I sifting through the serpent like intestines of a sick whale.
That sounds dangerous.
Beneath the sleep like veil, I read the stomach lining of the beast like braille. And walk the street feeling like my feet might fail.
That's how I learned. You can do it too.
Première étape de notre parcours, le 11e arrondissement de Paris où se trouvent les bureaux partagés de l'Imprévu.
Pierre Lebovici, je suis cofondateur de l'Imprévu, un média en ligne qui revient sur les événements oubliés. J'ai fondé l'Imprévu aux côtés d'autres collègues qui sont tous des anciens du magazine OVNI, OVNI.fr. OVNI, c'est une aventure éditoriale qui s'est arrêtée en 2012, hein, ça commence à dater. Et en fait, assez vite, on s'est senti frustré dans nos nouveaux jobs éditoriaux, frustré par la quantité d'informations qu'on pouvait traiter au quotidien, frustré aussi en tant que lecteur par la quantité d'infos qu'on pouvait recevoir et surtout l'amnésie en fait qui se créait de manière quasi automatique, le fait que du jour au lendemain on oublie l'actu de la veille. Je dirais qu'il n'y a rien de nouveau dans la mesure où l'information depuis des dizaines d'années fonctionne sur un cycle de 24 heures. Hein. Avant c'était la une du journal qui dictait l'actu du jour et il fallait forcément qu'elle soit nouvelle le lendemain. Mais aujourd'hui avec Internet, l'info va à toute vitesse et la validité d'une information, quand on est journaliste sur le web par exemple, elle peut se compter en minutes. C'est-à-dire que au bout d'une demi-heure, une d'un média va être rafraîchie et les sujets vont descendre. Et ça, en fait, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, ça casse un peu la hiérarchie de l'info. Donc on a l'impression que tout ce qui est urgent devient important. L'autre problème que ça pose, je pense, c'est plus... c'est plus une question limite philosophique. C'est quand est-ce qu'on apprend de nos erreurs, en fait? Quand est-ce qu'on arrive dans le présent à se rappeler du passé, de ce qu'on a pu faire pour tel ou tel événement? Et du coup, quelles leçons on arrive à tirer des événements passés? Et l'imprévu, en fait, nous, on veut vraiment répondre à ça. On revient sur le terrain que les médias ont délaissé pour poser des questions aux gens qui ont vécu un événement. Par exemple, on a publié récemment un article sur les ex-Lejabi. Les Lejabi, qui étaient des ouvrières pour une marque de lingerie, leur entreprise a fermé. C'était dramatique, c'était très couvert par les médias. Et puis, la belle histoire est arrivée. Ces ex-ouvrières allaient créer leur SCOP, leur société coopérative. Formidable, tout le monde se réjouit. Et puis, on oublie peu à peu, on ne s'intéresse plus à la vie de ces femmes. Malheureusement, leur aventure donc entrepreneuriale n'a pas marché, sauf que très très peu de médias en ont parlé. Et donc l'imprévu, là typiquement, nous on est revenu sur le terrain, donc on a envoyé l'une de nos journalistes à Lyon pour aller rencontrer ses ouvrières et essayer d'avoir leur parole sur pourquoi ça n'avait pas marché, pour essayer aussi de préfigurer ce qui serait une bonne société coopérative pour des ouvrières. Tout ça en fait, ça permet de remettre en perspective une actualité qui parle à tout le monde. Lejabi, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu à un moment donné. Et ça permet peut-être, j'espère, de guider aussi les choix de potentiels politiques, de guider les choix d'ouvriers qui seraient dans la même situation. Et surtout, ça apporte une information qui, à mon sens, est différente en fait, et singulière par rapport à ce que font les médias aujourd'hui. On est les seuls, nous, à faire de manière systématique des retours sur ces événements oubliés.
RFI.
Tout ceci, on le fait donc en allant sur le terrain, ça c'est très important pour nous, à l'imprévu, aller rencontrer les gens qui nous parlent en face. Donc on est très éloigné d'une logique qu'on qualifie de desk dans le journalisme, donc c'est-à-dire du journaliste assis derrière son bureau, ça on le fait assez peu à l'imprévu. Si on va sur le terrain, ça ne nous empêche pas d'essayer d'introduire des petits contenus interactifs, en fait, dans nos articles. Je pense par exemple à des petites infographies animées qui permettent de résumer, en fait, sous une forme visuelle et chiffrée, une problématique, par exemple. C'est aussi une manière d'accrocher les gens sur les réseaux sociaux, notamment, puisque les chiffres, aujourd'hui, ça marque beaucoup. Donc, nous, on aime bien On aime bien cette idée d'attirer nos lecteurs par d'autres formats innovants. Et donc ça va des infographies animées aux cartes interactives, par exemple. Et j'espère à terme par d'autres médias. Alors en fait, on a un modèle économique qui repose en partie sur les abonnements de nos lecteurs. Donc il y a un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Et par ailleurs, on a une autre activité à l'imprévu qui est celle de formation. On forme des médias, en fait, au journalisme numérique. Donc bon, c'est pas comme si on était une agence de communication, hein, si vous voulez. Hein, on ne travaille que pour des médias. Et donc c'est ça, aujourd'hui, qui nous permet de vivre. La société, donc l'imprévu, ça existe depuis 3 ans. On peut pas dire encore aujourd'hui qu'on est rentable. Et donc, pour faire simple, en fait, pour se financer, on a mis toute notre épargne, hein, pour commencer. Et puis, on a pu bénéficier de subventions, donc notamment du ministère de la Culture, puisque, en fait, depuis quelques années, il existe pas mal de dispositifs qui permettent à des médias qui veulent se lancer d'obtenir des fonds publics. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, nous, on a pu profiter de ça à l'imprévu. Et donc, on travaille maintenant sur la prochaine étape, qui est une levée de fonds. Donc on cherche là maintenant des investisseurs dans l'imprévu et se pose bien sûr la question de l'indépendance, hein, puisque nous c'est vraiment une valeur cardinale pour l'imprévu. On n'a pas de publicité sur le site, hein, on ne dépend vraiment que de nos lecteurs. Donc on va s'attacher, lorsqu'il y aura de nouveaux investisseurs dans l'entreprise, à vraiment préserver notre indépendance éditoriale. Donc il n'y aura absolument aucun lien entre les investisseurs et la rédaction. Et par ailleurs, on va chercher plutôt de petits investisseurs, histoire que les actionnaires fondateurs, qui sont tous des journalistes, restent majoritaires et donc puissent donner leur direction à l'imprévu. Quand on monte un média et qu'on est journaliste, puisqu'on est tous journalistes à la base, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on va être amené à faire et qu'on s'attendait pas du tout à faire. Moi, bien sûr, je m'attendais à faire de la compta, par exemple, mais je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, hein. Donc il faut être assez souple, je pense, hein, dans les tâches qu'on peut faire au quotidien. Moi, je me retrouve aujourd'hui à très peu écrire, tout comme ma collègue Claire, alors même que c'est notre métier à la base. Donc aujourd'hui, on le vit très bien, en fait, parce que on sait pourquoi on fait ça. On a monté une entreprise pas pour l'envie de faire de l'argent, mais surtout pour faire vivre un projet éditorial. Donc on est très à l'aise avec l'idée de plus faire notre métier, d'avoir changé de costume. Sur les autres leçons, je pourrais dire que c'est difficile d'exister dans le paysage médiatique aujourd'hui, en particulier quand on est un média en ligne. Et quand on est un média qui est créé par des jeunes journalistes qui n'ont pas passé 20 ans ou 30 ans dans un média et qui du coup n'ont pas un réseau très 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 fourni, c'est difficile effectivement de faire parler de soi. Et puis dernière chose, nous là c'est très propre au positionnement de l'imprévu, on parle des sujets oubliés, qui par définition ne sont pas dans l'actualité. Or, ce qui intéresse les médias aujourd'hui, et une bonne partie des lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, c'est effectivement l'actualité, ce qui se passe au quotidien. Et donc ça, c'est un défi en fait pour nous, hein, c'est un pari aussi. Hein. C'est de se dire, on va plutôt rafraîchir la mémoire de nos lecteurs, et on pense que c'est ça qu'ils vont d'abord chercher, plutôt que de rafraîchir leur fil d'actualité, quoi, si vous voulez. Donc voilà, maintenant pour le futur, à l'imprévu, on n'hésite jamais à se remettre en question parce que bon, on reste assez humble, hein. Aujourd'hui, on est 6 salariés, donc on est déjà très content du parcours qu'on a fait depuis 2 ans. Néanmoins, ce défi, il faut qu'on soit rentable, hein, à terme. Et donc là, on réfléchit à une nouvelle offre d'abonnement et même à une refonte de notre ligne éditoriale. Je vous rassure, le passé gardera toute sa place. Je peux pas vous en dire encore trop pour le moment. Ce que je peux vous donner en tout cas comme rendez-vous, c'est au mois de janvier, où devrait sortir donc un imprévu V2, hein, une version 2 de l'imprévu, sur laquelle on l'espère de plus en plus de lecteurs, arriveront.
Rendez-vous pris pour janvier. En attendant, je vous invite à aller visiter le site l'imprévu.fr. Cette semaine, une enquête titrée « Glyphosate et pesticides, danger millésimé », signature Benjamin Ourtic. Temps de lecture 12 minutes, c'est précisé sur le site. Au bas de l'article, nous avons oublié d'en parler avec Pierre Lebovici. Un encadré raconte pour cette enquête, comme pour toutes celles publiées sur le site, la manière dont elle a été fabriquée. Deuxième média du jour, Le Zéphyr.
Je me présente, je m'appelle Philippe Le Saffre, je suis journaliste et j'ai créé Le Zéphyr avec 3 autres journalistes. Et je suis avec Jacques,
Donc Jacques Tibéri, moi je suis pigiste, freelance, je bosse avec divers médias, Le Zéphyr en particulier, et sinon par exemple le journal Minimal, Technicart en ce moment, Socialter,
etc. etc. Alors on est là pour parler du Zéphyr, on en a déjà parlé dans l'atelier des médias, c'était juste avant, quelques mois avant le lancement véritable de c'était encore un projet à l'époque, maintenant ça existe, peut-être que tu peux nous rappeler, Philippe, ce que c'est, depuis combien de temps ça existe, pourquoi ça existe et comment ça fonctionne.
Alors le Zéphyr, ça existe depuis janvier 2016, c'est un média indépendant qui se trouve dans la mouvance, si j'ose dire, des slow médias comme L'Imprévu ou 8ème étage. Le slogan, c'est le média des aventures humaines. En gros, on raconte des histoires, des portraits, des feuilletons, et un peu dans tous les domaines, du sport, de l'actu, de l'économie, de la politique.
Tu veux dire un truc, Jacques ?
Disons que l'angle, à chaque fois, sur n'importe quel sujet, ou avec quel que soit le papier, l'angle va toujours être d'aller chercher l'aventure humaine. Donc, par exemple, hier, j'ai interviewé Marie Dauzet, l'avocate qui est dans l'affaire des Femen ou qui est dans de grosses affaires
liées au féminisme.
Oui, et cette personne, je l'ai interviewée non pas sur sa dernière affaire, mais sur l'aventure humaine qui est derrière son métier d'avocate de la défense. C'est l'angle de tous nos papiers, c'est celui-ci.
Quand vous étiez venu il y a donc plus d'un an, c'était en 2015, pour parler du projet à l'époque, vous aviez expliqué que vous aviez le sentiment qu'il y avait un malentendu sur ce qui devait être lu sur le web. Est-ce que deux ans après être venu en parler et plus d'un an après le lancement du projet, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi ce pari ?
Je pense, dans la mesure où on continue de raconter des histoires, et notamment on a une rubrique qui s'appelle Le Feuilleton, et Le Feuilleton nous permet de donner la parole à de jeunes auteurs, et c'est vrai qu'on a l'envie de toujours plonger dans des histoires et du coup de les retrouver petit à petit régulièrement, d'où nos feuilletons et le slogan toujours, les aventures humaines.
Vous avez choisi aussi d'avoir un modèle économique basé sur l'abonnement, donc pas de publicité en tout cas. Comment ça se passe ça ?
Alors, c'est vrai que c'est difficile, mais ça se passe plutôt bien. Les retours sont plutôt intéressants et encourageants. On progresse lentement mais sûrement. Je ne sais pas si tu peux préciser quelque chose là-dessus.
Concrètement, c'est-à-dire vous arrivez à en vivre, c'est un projet que vous portez à côté de vos différentes
alors,
activités,
oui,
etc.
Alors, non, on n'arrive pas à en vivre malheureusement, donc on a chacun nos activités professionnelles. Moi je suis à côté journaliste et effectivement on n'en vit pas. On sait que c'est très difficile pour la presse de manière générale, de toute façon, il n'y a pas que nous. Mais effectivement, quand on est indépendant, quand on fait ça finalement dans notre coin, entre guillemets, c'est sûr que c'est compliqué. Quand on n'a pas de personnes derrière qui vont mettre des centaines et des centaines de milliers d'euros, comme certains ont pu bénéficier. Oui, effectivement, c'est difficile, mais bon, on progresse.
Et est-ce que ça peut être un modèle pérenne comme ça, d'avoir une activité médiatique liée à ce site et puis de continuer chacun votre carrière de journaliste en travaillant comme toi, Jacques, comme pigiste à côté pour différents médias ? Ou est-ce qu'au contraire, vous souhaitez à terme soit arrêter, soit que ce soit votre activité unique ?
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir en vivre, j'aimerais faire que ça, parce que le Zéphyr, c'est un peu mon bébé. Je l'ai créé, ça a été lancé il y a deux ans, mais on y réfléchit depuis 2013, fin 2013. Donc, dans l'idéal, oui, j'aimerais pouvoir en vivre. Après, c'est pas forcément possible. On a chacun des familles et on a un loyer à payer. Du coup, c'est un peu difficile, mais bon, après, voilà, on n'a pas forcément non plus de plans comme ça, on se dit pas dans 3 ans on gagnera tant, on aura tant d'abonnés, etc., etc. On est plus
au jour le jour.
On est au jour le jour, on réalise nos papiers qu'on a envie de faire. J'ajoute juste que du coup c'est notre rôle de dire et de clamer haut et fort que le journalisme a un coût, l'information a un coût. Il faut le dire, il faut le marteler, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers le Zéphyr, à travers notre projet. Et puis on est dans un moment où il y a plein d'autres projets à côté, des jeunes médias qui essaient de le faire également, et on le fait ensemble, presque main dans la main.
Courte pause dans l'atelier, restez avec nous. Atelier des médias, vous êtes sur RFI. Les médias citoyens existent déjà. Ils s'appellent Mediapart, Les Jours, Reporter, L'Imprévu, Le Zéphyr, Arrêt sur Image, Le 4 Heures. Ce sont de jeunes entreprises, 10 ans maximum, à vocation journalistique. Nous avons choisi de vous en faire découvrir 4 aujourd'hui, ainsi qu'un projet complémentaire qui a pour nom Kaya, dont je ne vous dis rien de plus pour l'instant. Après avoir rencontré Pierre Lebovici de L'Imprévu, puis Philippe Le Saffre et Jacques Tibéry de Zéphyr, cap sur le 8e étage.
Je m'appelle Maxime Lelon, j'ai 26 ans et je suis fondateur et rédacteur en chef de 8e étage depuis mars 2014, date de lancement du site.
Qu'est-ce que c'est alors l'histoire de 8e étage ?
Alors 8e étage, c'est un média qu'on a fondé à 3 anciens étudiants journalistes. On a commencé à y réfléchir en octobre 2013, dès qu'on a eu terminé nos stages de fin d'études. Moi, j'ai fait mes stages de fin d'études chez Vice France et à M, le magazine du Monde. Et en fait, on avait, pendant qu'on était en école de journalisme, eu un projet, monter un média en une semaine et essayer de voir ce que ça fait. Donc on avait monté un média sur la Fête des Lumières à Lyon. C'est un média qui s'appelait Luminous, c'était le côté obscur de la Fête des Lumières. Donc c'était qu'est-ce qui se passe quand les touristes rentrent chez eux à 2h du matin, et ben, on nettoie toutes les rues de Lyon, comment ça se passe du côté de la Croix-Rouge, comment ça se passe du côté des éboueurs, comment ça se passe du côté des locaux aussi qui vivent par exemple sur la place des Terreaux et qui du coup voient le même spectacle 30 fois de suite en 3 jours. Et en fait, on s'est dit, en 2012, monter un média, c'est pas si difficile que ça. On avait un pote qui était graphiste, on avait un pote qui développait un peu sur WordPress, etc. Et puis, on s'est dit, bah, finalement, quand on a un développeur sous la main, un graphiste sous la main, ça va assez vite. Donc, en 3 jours, on avait monté presque une marque, quoi. On avait notre page Facebook, etc. Ça a plutôt bien marché. On avait eu des articles qui avaient été repris par U89 Lyon, etc. Et puis on s'est dit, sur une blague, en terminant cette semaine, « Ah, et si à la fin de nos études, on montait un média, ce serait marrant, et tout ça. » Donc voilà, on est parti, on a fait nos stages de fin d'études, et puis en octobre 2013, on s'est dit, « Et si en fait on le faisait, si on montait vraiment un média ?» Il y a notre directeur d'école à l'époque qui nous a dit, « Mais par contre, si vous voulez le faire, faites-le maintenant. » Parce que si vous commencez à choper un job dans une rédaction, bah, vous allez avoir le confort du salaire, etc. Et vous le ferez jamais. Et du coup, on s'est dit, « Bah, on va le faire, on va tenter, on va voir. » Et donc au début, on a lancé 8e étage parce qu'on était tous férus d'informations internationales. Et en plus, moi j'avais bossé à M et je bossais dans une rubrique avec Jean-Michel Normand du Monde. Et la rubrique, c'était les questions subsidiaires. Donc la ligne éditoriale, c'était vous avez le droit, enfin, il faut que vous trouviez des sujets dont aucune autre édition du Monde n'a parlé. Ni le quotidien, ni le site, ni les suppléments, ni rien du tout. Ni les hors-séries, et du coup, ça forçait à trouver des sujets d'information internationale très souvent, dont personne d'autre n'avait parlé. Et j'ai adoré faire ça, et du coup, je me suis dit, eh ben, on va faire un média que là-dessus. On va faire un média que sur les sujets dont les autres médias parlent pas, pas parce qu'on s'intéresse pas à l'actualité, au contraire, mais parce qu'on estime que l'actualité, les médias traditionnels s'en occupent déjà, alors bien ou moins bien, ça dépend, on peut être critique envers les médias traditionnels, mais en tout cas, on est persuadé, on sait qu'il y a plein de sujets d'information française et internationale dont les médias traditionnels ne parlent pas. Et du coup, nous, on va s'en emparer. Et notre premier filtre, avant de choisir si on traite un sujet ou pas, c'est est-ce que les médias traditionnels en ont parlé ? S'ils en ont parlé, on n'en parle pas. Et s'ils n'en ont pas parlé et qu'on trouve ça intéressant, on s'en empare. On ne voulait pas avoir un nom de média qui sonnait média. On ne voulait pas s'appeler News Machin ou Média Truc. On voulait... En fait, on était convaincu que pour monter un média en 2013, il fallait aussi monter une marque avec. Et c'était plus simple de lancer une marque qui, à la base, ne voulait rien dire, plutôt que de partir sur un truc qui... nous, on était très fans des projets OVNI ou des projets Rue 89, Slate, etc. On s'est dit, on n'aura pas d'argent pour trouver des bureaux, etc. Donc... on va trouver un endroit à Lyon, parce qu'on a été tous revenus à Lyon aussi parce que c'était moins cher de monter une entreprise à Lyon. On s'est dit, on va trouver un endroit qui sera finalement là où tout se passe, là où le média va naître. Et puis surtout, on se disait, quand on monte un média sur le web, le plus compliqué, c'est d'arriver à briser la barrière qu'il y a entre nous d'un côté de l'écran et puis les lecteurs de l'autre côté de l'écran. Et du coup, on s'est dit, voilà, le 8e étage, ça va être un lieu, ça va être l'endroit où tout va se passer, où tout va fourmiller. Et on a trouvé cet appartement au 8e étage d'un immeuble presque insalubre. On payait 800 euros de loyer à deux pour 95 mètres carrés. Enfin, voilà, Paris, c'est inimaginable. Et puis, on avait vu sur tout Lyon. Et on aimait bien ce côté... on prend de la hauteur, on essaie de voir un peu plus loin que ce qui se passe au ras du sol, l'actualité, etc. On essaie de s'ouvrir à d'autres horizons. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Pendant un an, on a été totalement bénévole. On avait mis en place des offres d'abonnement, mais un peu n'importe comment, parce que en fait, on n'avait aucune idée du modèle économique qu'on allait mettre en place. D'ailleurs, on n'y connaissait rien en modèle économique. Du coup, on avait mis de la pub Google qui nous rapportait 5 euros par mois. On avait mis des abonnements, mais on communiquait absolument pas dessus. Du coup, personne s'abonnait. Et puis, on s'était constitué en SAS en se disant, si jamais il y a des actionnaires qui veulent rentrer, comme ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, la publicité, c'est plus viable, c'est pas possible. On a commencé à se rapprocher... moi j'ai commencé à rencontrer des créateurs de médias aussi qui me disaient tu te rends pas compte, nous il y a 45% de notre lectorat qui a Adblock maintenant, donc c'est des
lecteurs. Adblock, donc c'est un outil qui bloque la pub.
Exactement, ouais. Donc c'est des lecteurs qui finalement rapportent rien au site. Et puis à côté de ça, il y avait Mediapart qui s'était lancé quelques années auparavant et qui était l'un des seuls médias profitables en France, enfin l'un des seuls médias rentables. Et donc on s'est dit,
qui avait misé sur le fait qu'il n'y avait pas de publicité et que tout était financé par des abonnés.
Exactement. Et on s'est dit, quitte à lancer un projet média un peu fou comme ça, autant le faire exactement comme on a envie de le faire et autant le faire de manière un peu utopiste, c'est-à-dire sans publicité, sans investisseurs, parce que finalement, on pense qu'on peut s'en sortir sans eux. Et puis, on estime que la presse doit être financée, pas par des industriels en tout cas. Et puis, moi, j'ai cette pensée-là que... une entreprise de presse, avant tout, c'est une entreprise. Et qu'une entreprise, elle a un produit qu'elle vend à des clients. Alors, même si c'est tabou de parler de l'information comme un produit, moi, j'estime que c'est comme ça que ça fonctionne. Et que quand je vais à la boulangerie m'acheter une baguette de pain, c'est moi qui donne l'argent au boulanger. Le boulanger me donne une baguette de pain. Et donc, j'estime que c'est aussi logique et c'est ce qu'il y a de plus sain que le lecteur qui consomme l'information, il rémunère les journalistes. Et puis ça permet surtout de se dire, si un jour nos abonnés commencent à se désabonner, c'est que notre travail est plus aussi bon. Et ça nous permet d'en mettre en question. Le jour où j'ai vraiment eu le déclic, il y a eu deux choses. Un jour, je suis allé voir un de mes rédacteurs en chef en stage, et je lui dis, j'aimerais écrire un sujet là-dessus. Il m'a dit, ouais, c'est sympa. Je fais, non, mais c'est hyper intéressant, il faut qu'on écrive un sujet là-dessus. Je me souviens plus sur quoi c'était. Et il me dit, non, mais ça, Maxime, ça t'intéresse toi, ça m'intéresse moi, mais ça intéressera pas les lecteurs. Et je lui ai dit, mais avant d'être journaliste, on n'est pas lecteurs, nous aussi. Il était là, non, mais tu sais, les lecteurs, faut leur apporter des sujets un peu plus faciles. Et en fait, cette condescendance envers le lecteur, et c'est une pensée qu'il y a malheureusement dans encore beaucoup de rédactions, de dire le lecteur, il est un peu simplet, faut pas lui apporter des sujets trop géopolitiques, relations internationales, parce que, ou alors sinon on est le monde diplo. Mais non, c'est pas vrai en fait.
Trimer le fer plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travail et l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, plus que jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini.
Alors notre slogan, c'est différencier l'information de l'actualité. Et donc en quelques mots, c'est juste, il y a l'actualité, c'est ce que vous voyez tous les jours quand vous allumez les chaînes d'infos en continu ou quand vous ouvrez un quotidien. Et puis, il y a nous, ce qu'on estime être l'information, qui est des sujets plus ou moins froids, donc pas forcément dans l'actu chaude, mais des sujets dont on est persuadé qu'il faut que les lecteurs les connaissent. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on a énormément de pigistes qui nous envoient des propositions d'articles sur les élections en Allemagne, où, et on leur dit non, ça c'est de l'actualité, donc ça nous intéresse pas. Nous, on veut savoir ce qui se passe au fin fond de la Bavière et un sujet qui peut peut-être intéresser les Français, mais dont personne d'autre a parlé.
L'atelier des médias.
Le sujet de cette semaine là, qui est sorti aujourd'hui, c'est sur Turbine, c'est une start-up en Hongrie qui essaye de lutter contre le cancer. Et en gros, c'est une start-up qui a inventé une intelligence artificielle qui essaye des milliers de combinaisons médicamenteuses sur des cellules cancéreuses, mais virtuellement en fait, sur informatique. Et ça évite des milliers de tests en vrai dans des laboratoires qui sont très chers et très longs. Donc ça, c'est le sujet de cette semaine. Sinon, on a fait un sujet de grand reportage sur le tourisme macabre à Tchernobyl. Donc voilà, des gens qui vont visiter Tchernobyl avec un compteur GGR autour du cou. On a fait un sujet aussi sur les femmes accusées de sorcellerie en Inde qui sont chassées de chez elles. En Inde aussi, on a fait un sujet sur les femmes victimes d'attaques à l'acide. Voilà, on a fait des sujets aussi aux États-Unis sur la Silicon Valley, le côté obscur de la Silicon Valley. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour tous ces entrepreneurs qui se lancent avec des rêves plein la tête en Californie, puis qui se cassent la figure parce que 9 startups sur 10 survivent jamais plus d'un an. Ça, et puis sinon, on a des podcasts aussi. Donc toutes les semaines, on approfondit par un podcast audio le grand reportage de la semaine passée. On a un dessin de presse tous les vendredis.
Comment ça se passe? Comment tu vois, toi, l'évolution de ce projet?
Alors, donc là, c'est vrai qu'on va bientôt terminer la troisième année. C'est un projet qui évolue lentement. Après, moi, personnellement, c'est un projet que j'ai toujours vu comme un laboratoire et comme une expérience. C'est de dire que même si demain, ça s'arrête, on aura fait tout ce qu'on voulait faire, on aura tenté tout ce qu'on voulait tenter et ça pourra... Enfin, on servira un peu de témoignage aux futurs lanceurs de médias pour dire « Bon, voilà les erreurs qu'on a faites, voilà celles qu'on n'a pas faites, qu'on aurait peut-être dû faire pour avancer. » Par exemple, là, on commence vraiment à mettre les moyens sur le marketing et la communication parce qu'on était un peu utopiste et on se disait « Si on fait un bon produit, qu'on fait de la bonne information, des bons reportages, le bouche à oreille suffira à nous faire connaître et puis à nous faire gagner des abonnés. » Et en fait, on se rend compte que c'est faux, que... Quand on lance un média, il faut faire de la communication, il faut faire du marketing. Et à la base, nous, on est journalistes. Du coup, on a été formés pendant 3 ans par des profs qui nous disaient « Voyez en face, c'est des communicants, faut jamais croire ce qu'ils racontent, ils essaient de vous vendre leur soupe et tout ça. » Et du coup, nous, on a été formés en se disant « Les communicants, c'est des méchants, faut pas croire ce qu'ils nous disent. » Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé d'être un peu communicant aussi, on est obligé de faire en sorte de faire connaître notre média à nos abonnés potentiels. Et donc voilà, là c'est l'étape qu'on est en train d'activer en ce moment, c'est du marketing, faire en sorte que nos abonnés potentiels nous connaissent. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps on va tenir. Financièrement, pour l'instant, on n'est pas trop mal, mais on n'est toujours pas à l'équilibre financier. Puis voilà, comme je le disais, si ça s'arrête demain, au moins on aura tenté le truc.
Huitième étage est un très beau projet média porté par le fort sympathique Maxime Lelon. N'hésitez pas à aller leur rendre visite et les soutenir sur 8e-étage.fr. En une cette semaine, Facebook Sperme Pipette, comment les couples lesbiens organisent leur PMA clandestine. Une histoire en texte et en son, signée Thibaut Sarrazin.
Moi je m'appelle Sébastien, j'ai 38 ans, papa de 3 enfants avec 3 mamans différentes. Donc pas évident tout le temps. Et je suis donneur parce que j'estime que n'importe qui mérite d'être parent, quoi.
Passons maintenant de l'autre côté des Alpes, en Suisse, pour parler d'un projet qui se distingue lui aussi par sa qualité. Un média qui est financé par un homme d'affaires, donc qui n'est pas indépendant au sens où on l'entend généralement dans l'univers de la presse.
Alors mon nom est Patrick Valélian, je suis journaliste, historien de formation, formé à l'université de Fribourg en Suisse, géographe, j'ai un diplôme d'enseignant et mon parcours de journaliste en fait est assez classique en Suisse, c'est la locale, la liberté, ensuite de l'international, du grand reportage à l'hebdo, où là j'ai couvert quelques conflits, notamment la Syrie, notamment l'Égypte, et ensuite la création de CEPT, qui est un média qu'on a créé de zéro en 2014, qui est en fait CEPT, le premier pure player en bon français de Suisse, le premier média qui a parié uniquement sur le web, avec un format différent en termes d'histoire, puisqu'on pratique le journalisme narratif ou slow journalisme ou littérature non fictionnelle. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est un peu le journalisme journalisme à l'ancienne. C'est du journalisme de terrain, c'est du journalisme d'enquête, d'investigation, du journalisme de reportage également. Et avec l'idée de faire tout simplement de la qualité, puisqu'on se donne la longueur, l'espace, le temps également de le faire. Les sujets chez nous peuvent prendre en termes de réalisation, entre 8 et 12 mois avant d'être mis en forme et mis sur le site internet. Et ensuite, notre caractéristique, c'est de publier tous les deux mois, en gros, les meilleures histoires sous forme de papier pour toucher un autre public que celui qui est plutôt web. On s'est rendu compte en réalité que les formats importaient peu. Ce qui importait, c'était les canaux de distribution, et le papier en fait toujours partie, en tout cas pour nous. Nous, on a lancé ce premier MOOC de Suisse et maintenant il est distribué dans une dizaine de pays à travers la planète, et on commence un petit peu à sentir qu'il y a un intérêt autour du projet, quoi, après 2 ans et demi, 3 ans d'expérience. La caractéristique de Seth, c'est d'être producteur en fait d'histoires, en bon anglais on dirait le stories, mais c'est notre ADN, c'est de produire des histoires inédites. Alors des exemples, on a une équipe de journalistes indépendants qui ont travaillé avec nous sur le Somaliland par exemple. C'était un travail juste extraordinaire de 2 mois sur le terrain, qui est maintenant finaliste d'un prix en Suisse assez prestigieux. On a également eu des enquêtes sur un travail qui était très touchant d'un photographe qui est parti, un Colombien d'origine, qui est retourné dans son pays, qui est réfugié en Suisse, qui a vécu 10 ans en Suisse, et qui à un moment donné s'est dit « Mais pourquoi je suis parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter mon pays d'origine ?» Et il est retourné rencontrer les gens qui l'ont chassé, les FARC, il y a 2 ans en gros. Et il en a tiré un travail très touchant, très humain, très proche finalement de son propre parcours à lui, émouvant également. Et en rentrant, ce jeune photographe nous dit « j'ai des photos, mais par contre je ne sais pas écrire, je ne suis pas journaliste ». Et on lui a simplement dit « raconte-nous ton histoire ». Et ce jeune gars commence à raconter son histoire. Et son histoire était juste extraordinaire. Et on lui a simplement demandé « donc écris comme tu sais ». Et nous, on a retravaillé ce sujet à l'interne, avec lui forcément, et ça nous a donné finalement un contenu totalement bluffant d'un journaliste photographe qui ne sait pas écrire, mais qui sait prendre des photos et qui sait aussi raconter des histoires grâce à ses photos. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner justement la chance aussi à des gens qui n'ont pas forcément la carrure du grand reporter et qui n'ont pas cette formation-là ou ce titre-là, de partir sur le terrain, nous raconter justement leur terrain, avec le jeu, avec le nous, avec les moyens qui peuvent être les leurs, avec l'honnêteté aussi du regard. Et cette honnêteté-là, pour nous, est importante parce qu'elle est la base aussi du lien qu'il faut recréer avec les lecteurs. En leur disant, on ne vous vend pas quelque chose qui n'existe pas, on ne vous vend pas des esbroufs, on vous vend simplement des journalistes qui partent sur le terrain, des témoins, des gens qui ont du talent aussi, qui ont ce lien direct, qui sont finalement les yeux, les oreilles, le nez, les jambes des lecteurs, et qui les prennent au sérieux également. Et donc on essaie aussi d'avoir un regard différent sur le monde. Et la position aussi helvétique, pour le coup neutre, c'est pas du flan, c'est pas du chocolat, hein, que j'essaie de vous vendre, mais c'est vrai qu'on a un regard qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, et on le revendique également. C'est-à-dire qu'on a, même si les gens qui bossent avec nous ne sont pas forcément suisses eux-mêmes, on essaye aussi de leur poser des questions vraiment de Suisse. C'est-à-dire que on a cette fausse naïveté aussi quand on les questionne sur leur sujet, qui nous permet aussi de faire évoluer le sujet. Donc l'enquête, le reportage, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, et c'est vrai qu'on ose aussi les longs sujets qui vont jusqu'à plus de 200. Je crois qu'on a réussi à publier sur le site internet, on a mis en ligne quelque chose comme 200. Le sujet le plus long, c'est 250 000 signes.
10 000 signes, c'est déjà gigantesque. Donc oui, là, c'est 25 fois gigantesque, c'est ça.
Et c'est vraiment notre quotidien. Les histoires en général de 7 font quelque chose comme 25 à 30 000 signes en moyenne. De base, j'allais dire plutôt en moyenne, non, de base, et plus généralement 40 à 50 000 en moyenne, et certaines histoires sont beaucoup plus longues. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est finalement, c'est l'histoire qui va décider de sa propre longueur. C'est assez déstabilisant pour la plupart de nos confrères, qui ont souvent besoin d'un format et ouais, de cadre. Et la plupart du temps, et ça c'est d'ailleurs le côté qui est assez touchant d'ailleurs quand on travaille avec des confrères, c'est qu'on doit leur donner ce cadre. La plupart du temps, on leur explique, ouais, alors 25, 30 000 ou si tu veux 40. Et on reçoit un mail quelques jours plus tard, mais j'étais beaucoup plus long, ça vous dérange pas? Et généralement, on dit non. C'est vraiment que l'histoire le voulait. Et ce qu'on essaie de faire après sur le site, c'est effectivement de feuilletonner, d'avoir des formats qui dépassent au maximum le 10 à 15 000 signes, ce qui fait une dizaine à une quinzaine de minutes de lecture. Et en feuilletonnant, après, c'est beaucoup plus digeste, plus facile aussi d'accès. Par contre, sur le papier, on regroupe ces sujets. Mais là, ça nous permet d'aller en profondeur. Là, ça permet justement de raconter une vraie histoire et pas simplement d'être un peu superficiel.
Alors, vous avez fait donc plusieurs paris. Hein. Le pari d'abord du tout web que vous avez tempéré en lançant un bimestriel. Ensuite, le pari de la longueur des sujets dans un monde où c'est vrai qu'il y a de plus en plus de longueur. Il y a des paris réussis dans ce domaine, comme la revue 21 en France, mais où c'est vrai que de plus en plus de choses vont vite et on dit que les gens doivent consommer vite, voire vite. Comment ça se passe du point de vue de l'accueil? Vous êtes financé par quelqu'un donc, qui a une autre activité, qui a d'autres rentrées d'argent, mais qui vous a fixé un objectif à 5 ans, si je traduis ce que vous avez dit. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que, d'abord, j'imagine que vous avez des retours, puisque vous êtes sur le web, les gens peuvent vous contacter, etc. Comment ça se passe? Et surtout, autre élément qui est difficile, c'est que vous êtes dans un tout petit pays qui, en plus, n'est pas uniquement francophone, qui est trilingue au minimum, quoi.
C'est une grosse difficulté de la Suisse, effectivement. C'est qu'on est dans un marché qui est très petit. En fait, la Suisse romande, c'est aller à la louche de millions d'habitants. Mais en même temps, ça nous oblige justement à innover. C'est-à-dire que ça nous oblige aussi à aller chercher plus loin. Ça nous oblige à nous intéresser à d'autres marchés. Les marchés francophones, que ce soit le Canada, où on est distribué maintenant, la Belgique, où on est distribué, la France aussi. Ça, c'est pour la partie papier. Pour la partie web, on a le même souci. C'est-à-dire qu'on doit aussi innover. On n'a pas le choix. Donc on a lancé par exemple un système qui s'appelle Pay What You Want, en bon français de nouveau, c'est vous payez le prix que vous voulez l'article qu'on vous met à disposition. Et c'est quelque chose qui marche relativement bien, qui commence en tout cas à interpeller nos lecteurs. Pour nous, le principe du payant est juste une évidence, on peut pas se permettre d'être gratuit d'une manière ou d'une autre. Donc on a innover dans ce domaine-là techniquement, mais également au niveau du contenu, en allant chercher aussi des histoires qui sont un peu moins typées helvétiques qu'on pourrait l'imaginer, en étant beaucoup plus internationaux finalement qu'on pourrait l'imaginer, avec ce souci de convaincre que ce journalisme-là, ce slow journalisme, est une réponse aussi à cette infobésité ambiante actuelle qui, je pense, commence à ennuyer un tout petit peu nos contemporains. Et si le journalisme n'est que simplement celui de répercuter les informations du jour rapidement et en gros un peu comme le fast-food, je pense que là on aura échoué à quelque part. Donc c'est pour ça que nous on parie sur une autre forme de journalisme et que peut-être qu'on réussira ce pari, peut-être qu'on le réussira pas, mais si, d'une manière ou d'une autre, de toute manière on aura tenté l'aventure.
Pour tout savoir sur 7, rendez-vous sur leur site 7.info. Mention spéciale à leur MOOC, leur belle revue tirée des contenus publiés initialement sur leur site. Le dernier numéro qui vient de paraître est consacré, comme l'a rappelé Patrick Valélian, aux lanceurs d'alerte. Pour conclure cette émission, je passe le micro à Léo Caravagna qui vient de nous rejoindre à l'atelier. Salut Léo et bienvenue.
Salut Ziad, salut à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit projet qui rassemble tous les médias qu'on a découverts aujourd'hui et qui fonctionne à rebours de la chronologie traditionnelle.
On a l'habitude de voir des articles du print, donc des journaux papier, qui sont ensuite publiés sur le web et on s'est dit c'est trop bête parce qu'il y a plein d'articles qui sont publiés uniquement sur le web, qui sont super, que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir et qui mériteraient peut-être d'avoir une deuxième vie sur papier.
Elle, c'est Alice Bodino, cofondatrice de Kaya, un petit carnet papier qui tient dans la main. On trouve dans ce carnet un ou deux longs articles publiés d'abord sur le web. Une idée simple, lancée il y a un an par trois étudiants de l'École normale supérieure de Lyon, dont Alice.
Ce qui nous tenait un peu à cœur, c'était que avec le contact qu'on a au papier et qu'on n'a pas avec le web, c'est que sur un carnet comme ça, ou même sur les journaux, on peut gribouiller, on peut le donner à quelqu'un d'autre, on peut l'emporter avec nous sans avoir forcément besoin d'avoir un téléphone portable ou quelque chose. Il y a un rapport avec le papier qui est quand même assez unique dans le monde de la presse, et nous, on reste encore attachés à ce format-là, même si évidemment on est des lecteurs de la presse en ligne, ça c'est sûr. Mais ça nous semblait important qu'il y ait des articles fouillés que nous on trouve passionnants, qui trouvent une deuxième vie sur papier.
Donc une deuxième vie, ça veut dire on peut se l'échanger, on va l'oublier sur un coin de sa bibliothèque et le retrouver plus tard, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est aussi pouvoir se faire une petite collection d'articles qu'on n'aurait peut-être jamais mis ensemble, en fait. Pouvoir retomber dessus à un moment où on ne s'y attend pas. Ça veut dire le prêter à quelqu'un qui, lui, ne connaît pas forcément ou ce média ou le thème qui est abordé. Enfin, quand on lit des articles sur le web, c'est assez individuel. Après, je veux pas faire une critique négative sur le web, parce que moi j'adore ça et tout, c'est juste une autre approche des articles qui peuvent se faire, et je sais que pour en avoir parlé avec les journalistes avec qui on travaille et d'autres, ils sont aussi toujours très heureux de savoir que leurs articles vont être imprimés, parce que ça a quand même toujours une valeur particulière dans le monde de la presse, le papier, quoi.
Le premier Kaya est sorti en septembre dernier. On y trouve deux articles tirés de l'imprévu.fr. Pour vous abonner, c'est sur kaya-lescarnets.fr.
Merci Léo et bienvenue dans l'équipe de l'atelier. L'équipe de l'atelier, c'est bien sûr Simon Decreuse, Camille Deloche, Constance Léon, Léo Caravagna et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous.